RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Giovanni.
Bonjour Mathieu.
Comment vas-tu?
Ben, très très bien.
Ça va Giovanni Curcio, je suis très heureux de te rencontrer et de te recevoir dans ce podcast La route des vins du Luxembourg, puisque tu es une figure emblématique aussi des sommeliers hein, ici au Luxembourg. Est-ce que tu peux te présenter comme ça à nos auditeurs?
Ben, merci beaucoup, bon, emblématique, merci beaucoup. Et non, je me présente, bon, je m'appelle Giovanni Curcio, je suis italien, bon, je pense que l'accent, vous pouvez l'entendre. Je suis né dans la banlieue de Naples, donc il y a très longtemps, il vaut mieux ne pas le dire. Bon, après, j'ai travaillé, vécu et travaillé un peu en Angleterre, 2 années, on va dire à peu près. Puis je suis revenu en Italie où je suis resté 7-8 ans en faisant plusieurs maisons, donc le Splendid Royal à Rome, donc Pagliaccio dont on a pris des étoiles ensemble, donc on va dire dans la brigade. Puis après je me suis déplacé à Florence à l'Enoteca Pinchiori, donc un 3 étoiles Michelin qui est très important pour une cave énorme, donc je pense une des plus belles caves que j'ai jamais vues, et je pense que je ne verrai plus une cave pareille, parce que c'était des caves qu'on construisait autrefois, dans le sens des caves vraiment grandissimes. Et puis je me suis déplacé à Paris où j'ai vécu un petit moment, donc en faisant l'arpège d'abord, puis la Dame de Pique, donc l'ouverture pour le restaurant dans Sophie Pic à Paris, puis il vino d'Enrico Bernardo, donc qui était meilleur sommelier du monde en 2004. Puis on est parti 3 ans à Bordeaux dans un château viticole qu'on a créé, un restaurant éphémère. Et puis on est revenu sur Paris au Luca Carton, donc restaurant emblématique où M. Sandrans avait commencé et puis tenu à l'époque où j'étais par Julien Dumas. Puis il y a eu le Covid, j'ai géré la transition entre Julien Dumas et Hugo Bourny, et puis on a eu la chance de se recontacter avec Monsieur Fanny, Roberto Fanny, où on avait eu déjà un premier contact quand j'étais sur Bordeaux. Mais malheureusement, je venais de signer à Bordeaux et moi j'étais vraiment intéressé à travailler avec lui, mais je venais de signer à Bordeaux, je ne pouvais pas faire marche arrière. C'est dommage, c'était passé comme ça, je dis bon. Et puis l'occasion s'est représentée et effectivement après on a décidé de venir au Luxembourg. Et on est très content, ça fait bientôt 4 ans qu'on est là. Je suis très très content d'être ici et franchement c'est un magnifique pays.
Tu as énormément bougé, tu as, c'est quoi?
Si, j'aime bien voyager. Hein.
Mais comment on fait comme ça quand on a une famille, quand c'est des sacrifices, ou alors c'est devenu au contraire une habitude, maintenant vous avez l'habitude, avec tous les 3 ans, ça bouge?
Non, mais alors, la grande chance qu'on a, c'est que je suis italien, mon épouse est japonaise. Mes enfants, Chiara la grande, qui a 12 ans maintenant, est née à Paris, et Julia la petite, qui a 8 ans maintenant, elle est née à Bordeaux. Donc déjà, on peut bouger maintenant. On s'est internationalisé. Et puis, ce métier offre une chance. C'est un métier de relation. Une fois qu'on se met en relation avec les personnes, etc., c'est un métier qui offre beaucoup de solidarité. Moi, par exemple, mon CV, quand j'ai dû faire le concours pour le meilleur sommelier d'Europe là, récemment, on doit envoyer un CV juste au moins pour se présenter, et tout le monde doit le faire. Et moi, ça faisait longtemps que je ne réécrivais plus mon CV, parce que ce métier se passe souvent par contact. Donc une fois qu'on est rentré, qu'on a une bonne position et qu'on se comporte bien dans une maison, c'est très facile après de bouger et de saisir une opportunité suivante. C'est un métier où c'est pas mal vu le changement tous les 2, 3 ans, 4 ans. Après, il ne doit pas être trop souvent, hein, dans le sens que, voyez, moi, ça fait 4 ans bientôt que je suis chez Fanny. Je suis content d'y rester beaucoup plus longtemps. Mais en quelque sorte, personne ne me reprochera jamais que je suis resté. La moyenne des maisons que j'ai fait, c'était de 3 ans. Donc, personne ne me reprochera jamais ça. Bien au contraire, c'est vu comme un avantage. Alors que peut-être dans d'autres corps de métier, si vous bougez tous les 3 ans, c'est vu comme un défaut, peut-être. Ou je ne sais pas. Mais donc, en tout cas, c'est un métier qui offre à la fois le motif, à la fois le moyen et à la fois autre chose pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire d'autres expériences. Donc cela, je le trouve très bien.
Tu es sommelier, mais on a aussi l'occasion de te découvrir parfois dans le cadre d'ateliers. Ce sont des choses que tu as organisées. Je t'ai même déjà vu sur des vidéos sur Internet.
Merci beaucoup. Si, en fait, on avait organisé plusieurs choses il y a quelques années, donc pour faire découvrir un peu le vin de manière différente. Donc, par exemple, quand c'était le cas à Bordeaux, on avait pris des personnes pour les pour les faire mélanger donc des cuvées en prenant du Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Petit Verdot, donc avec des cuvées impures de Petit Verdot. Bon, dans ce cas-là, c'était fait exprès pour faire cet atelier. Il n'y avait pas un producteur de vin en particulier. Et donc, voilà, donc ils devaient l'assembler en faisant l'assemblage bordelaise qui plus leur ensemblait. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, on avait vu que tout le monde pensait que c'était simple faire un assemblage, mais effectivement, on se rend compte que c'est très, très compliqué. Donc, quand on parle vraiment de faire l'assemblage des vins, ou parfois, je lisais l'autre jour pour les cognacs, etc., c'est vrai que c'est très, très compliqué. Pas tout le monde peut faire ça. Et demande des années d'expérience à faire ça. Au-delà d'avoir un bon palais, avoir un bon nez, etc., il faut vraiment être capable de faire cela. Donc, c'est pas pour tout le monde. Et on se rend compte de la difficulté. Et même tout le monde se rend compte de la difficulté. Quelque chose qui paraît vraiment le plus simple à faire, mélanger un peu de vin, c'est oui, je mets plus de petits verres d'eau parce que c'est plus salé, ou je mets plus de ça. Puis on se rend compte que juste avec 4 cépages, c'est compliqué. Imaginez un peu quelqu'un qui doit mélanger, par exemple, une cuvée de cognac qui a 100 ans, comme on parle des grandes cuvées, etc. Quelqu'un qui doit mélanger, qui doit même faire les mélanges pour la liqueur d'expédition ou pour autre chose dans la champagne. Mais oui, il faut une expérience énorme pour faire ça. C'est vraiment pas simple.
Dans ce podcast La Route des Vins du Luxembourg, on a pour habitude d'essayer de parler de vin de manière la plus simple possible. Giovanni, comment est-ce qu'on devient un bon sommelier ? Est-ce que déjà tu as vraiment le sentiment d'être un meilleur sommelier qu'hier ? Est-ce que pour toi c'est simplement de la dégustation ? Est-ce que tu éprouves encore des difficultés à un moment donné vis-à-vis des clients ? Parfois il t'arrive d'être dans une situation qui n'est pas forcément confortable. T'es remise en question ?
Ah, déjà, comment on peut devenir un sommelier? Déjà, la base, comment on devient sommelier, je sais pas. Parce que c'était par hasard. C'était par hasard. Donc, en fait, je suis allé au travail. Effectivement, un jour, le restaurant manager m'a dit « Tu fais le sommelier ». J'ai dit « Mais si t'es pas content, tu peux partir ». J'ai dit « Bon, très bien, mais pourquoi ?» Il m'a dit « Je sais pas, t'as le visage pour ». Je lui ai dit « Merci beaucoup ». Donc, j'ai été lancé comme ça. Et concernant comment on devient un bon sommelier, cela c'est une question très compliquée. Parce que est-ce que vraiment... moi-même, je pense... Est-ce que vraiment je suis un bon sommelier? Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, on ne connaîtra jamais tout. Être un bon sommelier, ça veut dire avoir une bonne gestion du stock, avoir une bonne gestion des clients, avoir être capable de faire des bons achats dans un moment où l'économie est un peu compliquée. Être capable à vendre le juste en faisant très content nos clients, ça c'est vraiment le principal. Le principal, c'est que le client revienne. Ce n'est pas que le client dépense le plus possible dans un établissement. Cela n'est pas concevable. En revanche, que c'est concevable, c'est qu'un client doit être très content, il doit revenir, ça c'est vraiment le plus important. Et au-delà de ça, comment former les personnes? Par exemple, là-dessus, sur la formation des personnes, je suis complètement incapable. J'ai du mal à être bon professeur, par exemple. C'est quelque chose que j'ai des difficultés à faire. Après, par exemple, connaître tous les vins. Bon, on essaie de s'efforcer, mais par exemple, au Fanny, nous, on a une carte des vins qui est 90% de vins italiens. Donc, après, on a des vins locaux, bien entendu. On a un peu de vins français, mais l'important qui sert dans un restaurant italien, parce que bon, le Fanny est vraiment une petite ambassade italienne à l'étranger, donc ça c'est très important pour nous. Et en quelque sorte, imaginez un peu qu'en Italie, vous avez, au-delà des cépages locaux, vous avez énormément de cépages italiens qui se déplacent à l'intérieur de l'Italie. Donc, dans le nord d'Italie, vous pouvez dans le sud d'Italie, vous pouvez trouver de Sangiovese, on le trouve en Toscane. Et au-delà de ça, il y a tous les cépages internationaux qui font partie des cuvées italiennes. Donc, déjà, se rappeler de tout ça. Souvent, ça m'arrive de l'oublier quelques-uns. Déjà, se rappeler de tout ça, c'est pas évident. Donc, comment avoir tout en tête? Déjà, ça, c'est un gros challenge. Et puis, au-delà du contexte du travail, dans ce moment, j'ai eu la chance de faire quelques concours internationaux, donc de me remettre un peu dans les études. Concours que j'avais fait déjà auparavant, hein, pas internationaux, mais nationaux quand j'étais en Italie. Donc, effectivement, toute cette partie théorique est très, très dure et très, très longue. Eh bien, la retenir, c'est pas toujours évident. Donc, comment être un bon sommelier, je sais pas non plus.
Ça t'apporte quoi, comme ça, de passer ou de repasser des concours? Tu es quand même dans un état assez avancé de ta carrière. Alors, tu ne sais pas tout, ça, on l'a compris. Mmh. Mais tu as suffisamment d'aisance aujourd'hui pour pouvoir prétendre à être chef sommelier dans de très grandes maisons. Tu le fais pour toi? Tu le fais pour prouver des choses aux autres?
Non, non. Alors, la première chose, j'ai appris une chose. C'est que je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais je pense qu'il y a deux batailles à faire dans la vie. Une, c'est se défendre contre les autres personnes. Et donc, effectivement savoir être à la hauteur des autres personnes, donc se comparer aux autres, c'est très important. Mais la bataille la plus dure, c'est la gagner contre soi-même. Donc, effectivement, les concours, en toute franchise, je ne regarde même pas qui sont les autres adversaires, je ne regarde même pas ça. Je n'ai jamais regardé ça et franchement, je suis même content de les voir parce que ça m'a fait un peu d'échange, ça me permet un peu de parler avec les autres. C'est même pas des adversaires, c'est plus des amis après qui deviennent. Mais vraiment, le plus important, c'est la bataille contre soi-même. Se motiver à étudier ou à donner plus. Donc moi, à chaque fois, par exemple, quand j'avais fait le concours italien, mais bon, ça c'était un petit moment, concours italien où j'étais fini deuxième, cela m'avait permis énormément de revoir plein de choses. Notamment à l'époque, il y avait un peu la mode dans les concours de faire un peu, de poser beaucoup de questions sur la France à l'époque, mais bon, sur toutes les appellations moins connues, pas sur les Bordeaux, etc. Et effectivement, cela m'avait permis de faire un gros tour de France, aussi en vacances. La vacance précédente, donc le mois d'août, au restaurant normalement ferme précédent, ça m'avait permis de faire un gros voyage en France. Cette fois-ci, c'était plus au niveau international, donc on s'est déplacé pas mal, on s'est déplacé dans le nord de l'Espagne, donc en Catalogne, en Catalogne et puis dans les Pays Basques aussi, en passant par la Rioja parce qu'on a fait tout ça en voiture. Le mois d'août, on était au Japon tout le mois, donc on a fait tout le, bon, parce que mon épouse est de là-bas, donc on a profité un peu pour faire la famille, un peu pour visiter le pays. Donc on avait visité au-delà des grandes villes, parce que bon, mes filles sont bien retournées un peu dans le pays de leur maman, donc outre les grandes villes, des maisons de saké, des maisons de vin, de la culture culinaire. Donc cela m'a apporté beaucoup de choses. Et puis après, la seule chose que je n'ai pas réussi à faire avant le concours, justement aller en Serbie et passer quelques temps pour déguster pas mal de vins locaux, chose que j'ai fait une fois que j'étais sur place après. Donc effectivement, ça m'a permis aussi de voir des choses. Et n'oublions pas une chose, c'est que je le fais souvent les week-ends, aller à Moselle pour visiter des domaines ici de la Moselle. N'oublions pas que nous avons à côté de chez nous une région viticole qui est en train de se développer énormément, donc qui est la Moselle luxembourgeoise, et des vins qui vont de mieux en mieux, vraiment qui ont un niveau qualitatif qu'aujourd'hui peuvent vraiment se vanter d'avoir une qualité, même la plus basse, qui est quand même bien par rapport à d'autres pays. On ne se rend pas compte, mais ici, dans cette région, même si on va dans le bas de gamme, c'est pas mal de tout. On commence à être bien.
Parlons-en un peu de ces vins luxembourgeois. Je me souviens, moi, avoir justement un petit peu dégusté les pinot gris. Il y avait des créments aussi qui étaient assez extraordinaires. C'est incroyable quand même cette montée en gamme.
La première chose à dire, c'est que le Luxembourg est passé d'une histoire de cave coopérative avec quelques producteurs qui sortaient, aujourd'hui à beaucoup de petits producteurs. Donc déjà, c'est un gros pas en avant. Et ça me rappelle un peu, si on doit comparer, mais bon, un peu de manière un peu loin, un peu juste l'histoire, ça me rappelle un peu les histoires que je lisais sur Barolo. Parce qu'avant aussi, il y avait les grandes coopératives, et puis il y avait les grands acheteurs qui passaient, etc., qui menaçaient un peu les producteurs en quelque sorte, qui faisaient un peu le bon et le mauvais temps. Et qu'après, les producteurs, au fur et à mesure, ils se sont mis un peu à leur compte. Et pareil, on a vu ici, on est passé d'une histoire de cave coopérative à beaucoup de petits producteurs qui font très bien. N'oublions pas aussi qu'il y a une énorme solidarité entre les producteurs et cela permet aussi d'avancer en quelque sens. Après, alors, concernant le crément de Luxembourg, je pense aussi que le cahier des charges qui a été mis en place par les producteurs et par la législation en quelque sorte, est quand même un cahier des charges qui rappelle, qui est très similaire à celui de la Champagne. Donc il y a déjà un cahier des charges qui est très strict. Après, attention, tous les vins mousseaux dans le monde qui sont en train de faire très bien, et je pense que dans un futur, ils feront très très bien tous dans le monde. Mais n'oublions pas que la différence qui passe entre la Champagne et le reste du monde, c'est que la Champagne a la chance d'avoir beaucoup de vins de réserve. Et donc, que ce soit dans les liqueurs d'expédition, que ce soit dans les assemblages de vins même, ils ont la chance d'avoir des vieux millésimes en cave, des vieux millésimes en cave dans les vins de réserve, etc. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Donc, c'est pour cela que se comparer, ce n'est pas le cas. En revanche, avoir un cahier des charges qui est si strict, avec des rendements que maintenant ils vont de mieux en mieux, dans le sens que au niveau qualitatif on va plus en qualité qu'en quantité. Le fait que le Luxembourg, le vin luxembourgeois à la base est est plus cher que les autres vins si on compare les différents niveaux, bien entendu. Donc en quelque sorte a fait comprendre à beaucoup de producteurs qu'il faut partir vers la qualité et pas vers la quantité. La grande chance qu'on a aussi dans ce pays, c'est que beaucoup de Luxembourgeois, ils ont vraiment découvert le Made in Luxembourg et le soutiennent. Je parle de consommateurs. Et donc, beaucoup de vin est vendu sur place et les producteurs, ils commencent maintenant à exporter, mais ils ne doivent pas trop, pas énormément se soucier des ventes. Donc, en quelque sorte, ils peuvent se concentrer sur la qualité. Moi, je vous fais un exemple. Souvent, quand je voyage quelque part, ça m'arrive d'aller voir un ami. Parce que, bon, en ayant voyagé beaucoup, en ayant eu beaucoup d'amis dans beaucoup d'établissements en Europe, ça m'arrive quand je voyage à Milan que je vais voir un ami qui est dans un 3 étoiles, un 2 étoiles, etc. Un ami sommelier. Moi, à chaque fois que je voyage, je ramène toujours deux bouteilles de Luxembourg ici, peu importe laquelle. Ça m'arrive de les prendre chez le producteur ou n'importe où. Hein. Je ne vous cache pas une chose, qu'à chaque fois que je repars, que les personnes ont goûté la bouteille, bon, quelques semaines après, quelques mois après, etc., ils m'envoient un texto où je peux acheter ça. Et effectivement, après, je leur dis, bah, écoute, contacte le producteur directement et puis ça sera plus simple. Et bien, ça m'arrive souvent d'avoir quelques producteurs ici qui m'appellent en disant, mais quelqu'un m'a mis en contact, mais comment? Et je leur dis, mais j'ai juste amené une bouteille par cadeau à un ami. Et effectivement, ils l'ont goûté, ils vous ont contacté pour l'avoir dans leur carte de restaurant. Donc, c'est-à-dire que si, malgré un prix qui n'est pas... qui vraiment n'est pas compétitif dans le sens de la compétition des prix, donc c'est pas quelque chose de mal, je dis bien au contraire. Malgré cela, la demande des vins luxembourgeois dans les établissements de qualité commence maintenant, mais je pense que dans un futur, ça pourrait être très très importante. Si on reste dans la région, n'oublions pas que c'est une région qui a une énorme tradition de distillation, avec des choses qui sont vraiment techniquement parfaites, qui sont vraiment très très bien aussi. Ici, dans ce pays, il y a on va dire 5 aussi distillataires qui sont hors normes. Vous voyez, là on voit toute la collection, donc ça c'est, je les collectionne souvent. Et effectivement, c'est un pays qui offre aussi des très bons distillataires à notre vie.
On va reposer un petit peu l'actualité viticole qui n'est pas forcément évidente en ce moment. Alors, je m'explique. On a ce Dry January qui encourage les personnes à ne plus boire d'alcool, par exemple, au mois de janvier. On a ces problèmes climatiques qui se sont abattus vraiment sur beaucoup de régions. Je pense au sud de la France qui, à un moment donné, ne savait même pas ce qu'était le mildiou et qui se sont retrouvés avec de la pourriture au niveau des plantes. On a aussi ce fait que la consommation d'alcool baisse en elle-même. Quel est l'avenir du vin demain? Ou finalement, tu vois ça de manière assez positive en disant, de toute façon, des complexités, il y en a toujours eu, on va y arriver.
De 2000 à 2020, des mauvais millésimes, il n'y en a pas eu tant que ça. Si on regarde les régions viticoles traditionnelles, on se rend compte que dans les années 70, les bons millésimes, on pouvait les compter sur nos mains. Dans les années 80, pareil. Après, attention, il y a eu des millésimes légendaires, exceptionnels, etc. Dans ce lot de millésimes dont je vous parle, mais les bons millésimes, on les comptait sur nos mains dans les décennies précédentes. Donc tous les 10 ans, il y avait 2 millésimes exceptionnels et 3 autres ou 2 autres qui étaient corrects. Et puis, il y avait des années où personne ne produisait. Moi, je suis né en 84. Bon, j'avais dit que j'allais pas le dire, mais je suis né en 84. Le millésime où personne n'a produit. Donc, je pense qu'une fois, un client, j'avais fait mes 30 ans, un client m'a offert une bouteille de Cos d'Estournel 84. Il m'a dit, écoutez, après, il m'a offert autre chose, mais il m'avait offert celle-là juste pour me faire cadeau. Il m'a dit, écoutez, Giovanni, je sais que vous êtes de 84, donc je vous offre ça. Goûtez-la, je sais que ce n'est pas un grand millésime. Bon, je l'ai goûté, effectivement, et c'était Cos d'Estournel. À l'époque, c'était le meilleur qui avait produit, qui avait mis en bouteille. Attention, parce qu'il y avait très peu qui avait mis en bouteille à l'époque. Bon, c'était fini, et c'était il y a un petit moment. On a quelques millésimes qui n'est pas excellent. Bon, c'est vrai que les changements climatiques sont très compliqués et l'avenir est très compliqué à concevoir. C'est vrai qu'on a un retour aux maladies qui est énorme. Si aujourd'hui on a un problème de phylloxéra, je fais des hypothèses dans l'absurdité, à Bordeaux, ou si on les a dans certaines parties de la Bourgogne, ou en Champagne, ou en Barolo, ou je ne sais pas, dans la Franche-Comté, je fais un autre exemple, il y a un institut qui va intervenir un instant et ça va être bloqué assez rapidement. C'est vrai que quand je lisais le cas de l'Australie, de la Phylloxera qui arrive dans la Yarra Valley, c'est vrai que c'est développé assez rapidement sans que personne puisse intervenir dans les temps corrects. Le temps entre a été découvert et le temps d'intervention a été un peu long, donc cela ça peut risquer.
Après, si on prend l'exemple ici au Luxembourg, bon, on a l'Institut Vitivinicole hein, qui cultive des pivis depuis quelques années,
si.
qui est aujourd'hui capable. Alors ça, c'est pour la partie vraiment culture, mais pour la partie consommation, tu penses que tu es confiant? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est quand même à une époque où les gens boivent du vin au restaurant, alors un peu moins, en boivent aussi à la maison. Tu penses que le vin va être vraiment de plus en plus rare ou pas?
Le vin fait partie de notre culture. Je pense qu'on a juste, bon, à part la Dry January, mais
c'est un coup de moins bien peut-être.
Mais ça c'est. Non, je pense qu'on n'est pas dans un moment de mauvaise consommation. Je pense que la consommation est en train de changer. Un restaurant, il a un mark-up à faire sur les vins. Donc, effectivement, quand on rentre dans un restaurant, on sait que le personnel qui travaille, les verres qu'on utilise, la vaisselle, etc. Tout ça, il faut imaginer qu'on loue cela pendant une soirée. Donc, effectivement, la bouteille de vin qu'on achète chez le producteur, on ne peut pas la retrouver même plus au restaurant. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en restauration, les bouteilles d'un certain coût, elles ne sont plus consommées, et c'est vrai. Un autre avantage aussi, ça permet de découvrir d'autres petites maisons, ça permet au sommelier déjà d'aller chercher autre chose et au consommateur de découvrir autre chose. Et ça c'est un bien, donc il faut aussi saisir la positivité dans une mauvaise chose. On consomme plus les grandes bouteilles, mais on cherche les petites productions, donc les petites pépites, comme on les appelle. Donc voilà, et ça c'est déjà très bien. Deuxième chose, n'oublions pas que dans les décennies précédentes, les sommeliers se sont beaucoup activés pour former ou divulguer ou je ne sais pas comment dire, le vin à plus de personnes possible. Donc aujourd'hui, il faut dire une chose, que le consommateur des années 2000 était beaucoup moins informé que le consommateur de 2025. Donc déjà aujourd'hui, les personnes qui vont au restaurant ne veulent plus avoir une bouteille pour goûter tout, pour faire tout le repas, mais veulent avoir plusieurs choses. Nous, par exemple, pour revenir sur le cas de l'endroit où je travaille, nous, une de nos choses qui sont les plus consommées, mais vraiment pour tout le monde, c'est l'accord mes vins. Donc nous, on a 9 services avec 8 verres de vin, bon là, c'est l'amuse-bouche, avec 8 verres de vin qui l'accompagnent. Et effectivement, on commence toujours par Luxembourg pour faire découvrir une maison d'ici ou un vin de Luxembourg. Un, parce qu'on est accueilli dans ce pays, et deux, parce que les vins sont très bons. Et puis, on fait un tour d'Italie. On découvre des vins de régions différentes, donc on fait un tour du pays entier. Et c'est pour cela qu'on voit dans beaucoup de restaurants et de bars à vin, etc., les vins ouverts qui vont plus que la beauté. Donc, je ne suis pas pour le fait, je ne pense pas que le consommateur, peut-être qu'il consomme un peu moins statistiquement. Mais est-ce que ce moins, ça équivaut vraiment à moins en qualité? Est-ce que ça équivaut en quantité? Je ne sais pas, parce qu'on est dans une période de transition, donc tirer des chiffres comme ça, ça serait un peu les sorties au hasard. Côté ma mère, mon grand-père, il buvait tous les jours. Il buvait 2 verres de vin au déjeuner, 2 verres de vin au dîner, donc ça fait 4 verres de vin par jour, mais il buvait la même chose tout le temps. Ma génération, elle ne boit jamais la même chose, et même ne s'arrête pas à boire que des vins dans un seul pays. Donc souvent, ils aiment bien aller... Moi j'ai... Par exemple, j'aime toujours bien boire de tout le monde, donc j'aime bien déguster des vins de n'importe où ils viennent. Vous voyez, si on va dans ma cave, j'ai des vins du Pérou, j'ai des vins, bon, c'est vrai que c'est un peu mon métier, mais il y a plein de monde qui fait ça, qui goûte quelque chose, et aussi les revendeurs. Aujourd'hui, n'importe quel revendeur de vin, on retrouve des vins un peu qui viennent de d'autres pays assez facilement, chose qu'on ne trouvait pas auparavant. Et cela, ça se répercute aussi au restaurant. Donc, les personnes veulent vraiment goûter des diversités, plusieurs choses, parfois le même cépage en plusieurs, avec 2-3 producteurs différents. Donc, je trouve que je ne suis pas sûr si on va dans le mauvais sens ou dans le bon sens. Je pense que dans d'autres continents où il y a moins le contrôle, on va dire, social en quelque sorte, je pense que l'impact est beaucoup plus fort. Hein. Nous, on a vu l'exemple du Japon où. Le gouvernement, les autorités ne contrôlent pas tant que ça les prix, etc. Et effectivement, là, l'impact, on le voit plus important, malgré ils ont un yen qui est très bas, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et aussi, je parle avec beaucoup d'amis qui ont des activités aux États-Unis et me disent que là, ils font payer la différence aux clients. Et effectivement, là, les clients, ils voient la différence. Donc, attention aussi, nous avons aussi la chance d'être en Europe. Ça, il faut jamais l'oublier.
Merci beaucoup, Giovanni. On va refermer ce podcast de la route du vin du Luxembourg. J'ai tout de même une dernière question à te poser.
Avec grand plaisir.
Allez, c'est une double question. Je voudrais connaître ton plus beau souvenir en termes de dégustation de vin, mais juste avant, je voudrais que tu me parles aussi de ton pire souvenir en tant que sommelier. J'imagine que le métier de sommelier, il n'est pas aussi magique qu'on aimerait le présenter, c'est-à-dire que parfois on fait goûter un vin et le vin ne passe pas.
Alors, pour revenir à cette dernière, le vent ne passe pas. Alors, ça arrive, hein, ça arrive. Je fais un exemple assez récent. Nous avons une carte de vent qui est assez large. Pas tout le monde a vraiment envie de la lire. Donc, 90% des cas, c'est moi qui conseille ou ils me font confiance. Donc, je connais le client et donc je choisis. Ça m'arrive de temps en temps que quelqu'un, je le vois dans les yeux, et parfois ils ne me le disent pas même parce qu'on connaît les clients, etc. Mais je le vois dans les yeux, je ne les vois pas très convaincus. Donc c'est moi qui propose de charger la bouteille. Et ce que je dis aussi, c'est très important dans la restauration. Peu importe la qualité de la bouteille que vous avez conseillée, si le client n'est pas content, le vin est un plaisir. Comme dit Simona, l'épouse du chef, le vin est un plaisir. Et donc si quelqu'un n'est pas content de sa bouteille, il faut la changer. Il ne faut surtout pas qu'il passe une mauvaise soirée. Que les clients pensent que le vin est bouchonné et qu'il ne l'est pas du tout. Ça, c'est un cas courant, c'est arrivé plein de fois. C'est pas grave, on change la bouteille, parce que ça peut être aussi nous qui sommes mentors et que ce soir-là, nous n'avons pas le nez au top et que peut-être qu'il a un nez plus sensible aussi. Ou peut-être qu'il y a un autre défaut, ou il y a un autre mécontentement que le client ne sait pas exprimer parce qu'il n'a pas le vocabulaire et que nous, c'est à nous de le changer. Ou tout simplement, même le client qui a choisi une bouteille et qui puis finalement s'est trompé, bon, pourquoi leur faire passer une mauvaise soirée? C'est vrai que sur certaines grandes bouteilles, on a peur. Mais là, c'est aussi le sommelier d'essayer de comprendre un peu si les clients... Donc, de comprendre un peu la situation. Mais en tout cas, vraiment, la personne doit passer une bonne soirée. N'oublions pas que le plus important, vraiment la règle numéro un, c'est que le client revienne. Et ensuite?
Eh bien, ensuite, il y a le meilleur moment. C'est-à-dire que ça fait partie des petits à côté qu'on doit gérer en tant que sommelier. Mais parfois, on éprouve des grands, grands moments de plaisir. J'aimerais que tu me fasses part de ce dernier grand moment de plaisir que tu as pris à l'occasion de la dégustation d'un vin, par exemple.
Alors, si je peux être sincère, il y a deux moments. Alors, premier, j'ai toujours un grand moment quand il y a des vins de régions complètement atypiques que je déguste. Donc, ça peut être un vin de l'Inde, un vin... à l'époque, quand j'avais dégusté Merchan, il y a très longtemps, un vin du Japon, ça peut être un vin d'une appellation d'un coin complètement inconnu. Vous voyez, il y a une fois, j'ai dégusté des vins de La Réunion qui ne m'avaient pas plu en termes de goût, mais j'avais adoré parce que c'était des vins de La Réunion. Donc, par contre, je les ai regoutés, maintenant, il fait beaucoup, beaucoup mieux. Là, d'ailleurs, on va déguster avec le chef, un producteur luxembourgeois qui fait des vins avec les pommes et avec un autre fruit. On va le déguster bientôt. Je suis très excité d'y aller parce que c'est quelque chose que je n'avais pas goûté au Luxembourg, donc ça m'intéresse beaucoup. Il y a aussi autre chose qui me passionne, c'est que quand on lit sur les livres un vin légendaire comme il doit goûter, et puis quand on va le goûter, on se rend compte qu'il est comme ça. Je fais un exemple. Quand j'étais à la Nota Capincioli à Florence, tous les jours, on dégustait deux vins à l'aveugle, mais on parlait de grands vins, de la tour, des moutons, donc des choses qui venaient des primaires qu'il avait achetées auparavant, de qui étaient livrées, on ouvrait des bouteilles. Ça peut être aussi de... J'ai dégusté, par exemple, là-bas, plusieurs reprises, un Rijaillé Cru Parentou, parce qu'il avait 85% de toute la production dans sa cave, mais il avait collectionné dès le départ. Un jour, je vais ranger des choses en cave, je monte, il avait préparé un des vins à l'aveugle, donc il y avait que les verres là, il me met ça au nez, il fait « trouve ça ». Et comme ça, je le mets au nez, je vous assure, c'était la seule fois dans ma vie où j'ai trouvé ça comme ça. Je fais « Petrus 82 ». Il me regarde et me fait « Mais t'as lu l'étiquette avant ?» Je fais « Non, mais c'est Pincioli. Non, j'ai pas vu la bouteille. » Il fait « Comment tu le sais ?» Je fais « Mais franchement, j'ai lu ça sur un livre. » Parce qu'à l'époque, je devais avoir 23 ans, je pense, ou chose comme ça. J'ai lu ça sur un livre, j'ai jamais goûté ça. Il fait « Ah, t'es sûr que t'as pas triché? » Je fais « Non, j'ai pas triché, bien entendu. » Et donc, mais c'était vraiment ce que je lisais sur les livres, donc les champignons. Et je pense que j'aurais un souvenir toute ma vie. Et c'est la seule fois que j'ai goûté le 82 millésime légendaire de Petrus, etc. Donc, il me dit « Ah, mais bravo, t'es le seul qui l'a trouvé. » Mais franchement, ça s'était trouvé par hasard. Et ça m'est arrivé aussi une autre fois que j'avais goûté des vieux Berthet Bondé, 1952, donc Château Chalon, bon, parce qu'ils ont toujours été très bien cuvés à Château Chalon, etc. Pareil, j'avais trouvé Château Chalon, mais j'avais pas trouvé le millésime, par contre, j'avais dit des années 60 ou des choses comme ça, donc j'étais un peu loin du millésime. Mais en quelque sorte, c'est quelque chose que j'avais lu sur les livres, et donc c'était représenté. Et donc, ça aussi, c'est extrêmement émotionnant, quand on vend vraiment, tout le monde trouve la description non comme un fait subjectif, mais comme un fait objectif. Donc, ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde effectivement pense et c'est ce que tout le monde effectivement communique. Et le vin est celui-là. Hein. Donc, ça, je trouve ça très émotionnant.
Giovanni Curcio, je le rappelle, tu es donc chef sommelier au restaurant Fanny, oui, ici à Luxembourg. Merci beaucoup d'avoir participé.
Merci
à cette
beaucoup.
Vins.
Et je vous attends tous au restaurant, comme vous voulez. Et on se fera un bon discours sur les vins.
À bientôt, Giovanni.
Merci beaucoup, à bientôt. Merci, merci beaucoup.
des vins du Luxembourg.